Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est venue jusqu'à nous. Merci parce qu'elle continue à transformer nos cœurs, à nous donner de l'espérance, à nous donner ta joie, ta paix, ton amour. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Et je vous invite à lire en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 11. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 11. Il paraît qu'Henri cherche toujours dans sa grande Bible, me dit Sophie, alors je vais attendre qu'il trouve. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ils sont nombreux, ceux qui me parlent de la fin des temps. Et le contexte dans lequel nous vivons pousse certains à se poser des questions. Pourquoi ces catastrophes arrivent-elles? Pourquoi vivons-nous des moments si durs? Et moi, ça me choque toujours un petit peu parce que je me dis, nous, Européens, il y a quelque chose qui nous arrive et on nous dit, ça y est, c'est la fin des temps. Et en Afrique, ils vivent des moments difficiles. Il y a des maladies, il y a des morts, il y a des guerres. Et nous, ça ne nous touche pas. On se dit, c'est bon. La maladie vient, le Covid vient, et là, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde. Certaines personnes sont convaincues que nous vivons les temps de la fin. Et que bientôt, Christ reviendra sur cette terre pour nous chercher. Est-ce le cas? Est-ce le cas? Je n'en sais rien. Peut-être pas la bonne réponse que vous attendiez, mais je n'en sais rien. Je ne vais pas dire oui, c'est maintenant. Je ne vais pas dire non, c'est pas maintenant. Je dis juste, je n'en sais rien. Mais déjà, à l'époque de l'apôtre Paul, on se posait les mêmes questions. Et pour rappel, hein, c'était même pire qu'aujourd'hui. Certaines personnes, certains chrétiens, étaient mis sur des croix. On leur mettait le feu et ils servaient à illuminer les rues de Rome. La peste, le choléra, il y avait tas de choses. Et déjà, ils se posaient ces questions. Et ils étaient convaincus que Christ allait revenir durant leur vie. L'apôtre Paul dit en parlant de la fin des temps, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et on sait très bien que le voleur, on n'attend pas. Hein. Ce serait tellement bien si on attendait, on appellerait la police avant, puis ce serait fini. Non, le voleur, il vient vraiment au moment où on s'y attend le moins. Maintenant, il vient même en pleine journée, qu'on s'y attend, mais vraiment pas. Il y a un autre passage en Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En résumé, il me semble que c'est une mauvaise idée de rechercher le jour du retour du Seigneur. D'ailleurs, en l'an 2000, il y avait certains qui avaient fait des calculs et disaient « ça y est, c'est bon, ça fait 2000 ans, ah, le Seigneur va venir ». Il y en a qui avaient arrêté de travailler, ils avaient tout laissé tomber et il n'est pas revenu. Ils ont été en difficulté. Alors certains me diront, très peut-être toujours qui ont réponse à tout, on ne peut pas connaître le jour, mais on peut connaître la période. On peut connaître l'année. Et alors on cherche. L'apôtre Paul ne met pas l'accent pour être prêt le jour J, mais pour être toujours prêt. Ça me fait penser au scout d'ailleurs, toujours prêt. Mais il faut être toujours prêt. On ne doit pas se dire telle date, je dois être prêt. Mais se dire tous les jours de ma vie, je dois être prêt à son retour. Dans le temple, vous l'avez vu, ah ben non, ils sont les extincteurs. Alors, avant le temple et après le temple, des extincteurs, et au-dessus, il y a des extincteurs. Et ces extincteurs, on ne les met pas dans la prévision que tel jour, il va y avoir le feu. Et puis finalement, on amènerait les extincteurs que le jour où le temple serait en feu. Non, les extincteurs sont là, les sorties de secours sont là, voilà, là, indiquées, lumineux, tout est prêt pour le jour où, si jamais il y aura le feu, tout se passe bien. Mais on ne les met pas juste qu'il y aurait le feu, quoi. On n'a pas notre tournevis et hop, on va visser quand il y aura le feu. Non, on est toujours prêt. C'est pareil si vous partez en croisière. Quand vous partez sur des bateaux, tout est prêt au cas où le bateau coulerait. Bon, malheureusement, quelquefois, c'est pas prêt. Et alors, c'est la catastrophe. Voilà, mais normalement, tout est prêt. Alors, malheureusement, comme je le disais, certaines personnes enlèvent des sécurités car elles pensent qu'ils sont hors d'atteinte. Nous ne savons pas quand viendra exactement le Seigneur. Si ça se trouve, il va revenir pendant ce culte. C'est possible. Il faut être toujours prêt. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Chers frères et sœurs, si nous sommes en communion avec le Seigneur, le jour du Seigneur ne nous surprendra pas. Car d'une part, il nous prépare à sa venue, et d'une autre part, c'est Christ qui nous rend dignes d'être en sa présence et non nos œuvres. Qu'il revienne demain ou dans 10 ans, par sa présence en nous, nous sommes prêts à l'accueillir. C'est lui qui nous rend dignes de l'accueillir. Donc, soyons en paix et ne soyons pas tourmentés par la date du retour du Christ. Excusez-moi, ce n'est pas l'essentiel. Il reviendra, c'est certain, mais que ce soit le 10 juillet, le 20 juillet, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il reviendra un jour et que nous devons être prêts pour ce jour. Voici comment la présence de Dieu en nous nous prépare à sa venue. Tout d'abord, comme le dit l'apôtre Paul, sa présence en nous nous donne la cuirasse de la foi, qui représente la justification par la foi. Nous sommes sauvés par l'œuvre de Christ à la croix et non par nos propres œuvres. Et ça, c'est très important. C'est hyper important. Notre salut ne peut pas se perdre si nous sommes en communion en Christ. Ça, c'est important. Si je suis dans la communion avec le Seigneur, mon salut ne peut pas se perdre. Le diable peut vous chuchoter, « Ah, t'es pas sûr que tu sois sauvé ?» Ben si, vous êtes sûr que vous êtes sauvé. Et vous ne devez pas vous inquiéter. Oui, il nous arrivera de regretter d'avoir fait des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, mais sa présence en nous nous rappelle que nous sommes pardonnés en Jésus-Christ. Imaginons, le Seigneur revient dans une minute, et là, juste avant que je pêche, je fais quelque chose qui n'est pas bien, je vole mon prochain, mais on est pardonné en Christ. Je ne prends peut-être pas le bon exemple, mais Je fais de la médisance, le Seigneur arrive deux secondes après, mais je serai quand même sauvé parce que je suis en communion avec lui. Et il sait mon état d'être pécheur. Et il sait que je ne fais pas exprès de le faire. Donc il ne faut pas être stressé. Avant, dans l'Église catholique, je pense que ça se fait toujours, il y a l'extrême onction juste avant de mourir, pour être sûr qu'il va être pardonné. Mais de toute façon, on est pardonné en Christ. Avec ou sans cette onction, on est pardonné, on est prêt par sa présence en nous. Personne, je dis bien personne, ne peut nous enlever l'espérance du salut et notre justification. Personne. Ce n'est pas normal pour un croyant d'être angoissé par la date du retour du Christ, car l'angoisse ne vient pas de Dieu. Si malheureusement vous êtes angoissé, prenez le temps d'être en communion avec le Seigneur et il vous donnera sa paix. Vous pouvez chercher dans les...
Occupe-toi.
Ah, c'est trop fort. Vous pouvez chercher dans les fruits d'esprit, l'angoisse ne fait pas partie. Mais la paix, oui. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. Dieu nous aime et sa présence en nous nous donne l'espérance pour l'avenir. L'espérance pour l'avenir. Même en ces temps de Covid, nous avons l'espérance pour l'avenir. Ce n'est pas noir, mais c'est blanc d'espérance, l'avenir. En effet, nous savons que Dieu est souverain. Il est souverain sur toutes choses. Dieu est au-dessus de tout et ne nous a pas destinés à sa colère. Ça, c'est très important. Quelquefois, on voit à la télévision des films catastrophiques de la fin du monde, mais ce n'est pas à ça que Dieu nous a destinés. Il ne nous a pas destinés à sa colère. Ne soyons pas inquiets des temps à venir. Mais attention, cela ne veut pas dire que nous serons épargnés par les épreuves de la fin des temps, mais que dans les épreuves, il sera là pour nous soutenir et nous aider à les surmonter. Et pour reprendre l'exemple du bateau, si le bateau coule, il y a les gilets de sauvetage qui sont là pour que nous ayons toujours la tête hors de l'eau. De même, dans les épreuves, Christ est toujours là pour nous aider à avoir la tête hors de l'eau, hors de l'épreuve. Mais, c'est-à-dire que le reste est dans l'eau. Donc oui, on vit ces épreuves, quelquefois sont difficiles. Mais on a toujours la tête hors de l'eau. Et à un moment donné, il y a le sauveteur qui vient, il sort la personne de l'eau. Mais ça, c'est le Christ. Il nous sort, à un moment donné, de cette épreuve. Et quelquefois, il faut rester longtemps. Il y a des naufragés, je crois qu'ils restent toute une journée, quelquefois dans l'eau, voire plus. Et quand les sauveteurs arrivent, et quand Christ arrive, il nous sort. Et nous avons cette espérance qu'il viendra. Quand un bateau coule, les gens, ils n'ont pas forcément l'espérance qu'ils savent où ils sont. Est-ce que les sauveteurs vont savoir où ils sont? Mais nous avons cette espérance que Christ sait toujours où nous sommes et il viendra toujours prendre soin de nous. Quoi qu'il se passe dans le futur, quoi qu'il se passe avec ce Covid dans le futur, nous devons avoir cette conviction que nous serons dans les mains de Dieu. Et il prendra soin de nous. Quoi qu'il se passe dans le futur, même si c'est la fin des temps, même si les catastrophes arrivent, nous sommes dans les mains de Dieu. On peut dire qu'humainement, c'est normal de paniquer en voyant la fin du monde s'approcher. Mais si le Saint-Esprit est en nous, il nous enlèvera toute peur et toute panique. Et l'exemple qui m'est tout de suite venu à l'esprit est le passage où les disciples de Jésus paniquent quand ils étaient en pleine tempête sur une barque. Relisons ce passage. C'est en Marc, chapitre 4, versets 37 à 41. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent : Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : Silence ! Tais-toi ! Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Les propres disciples de Jésus ont eu peur de la tempête alors que Jésus était à côté d'eux. Ce texte montre que le croyant n'est pas épargné par la peur. Si nous ne faisons pas attention à affermir notre foi, la peur peut s'installer en nous. Pour moi, ce texte me dit que si nous avons peur, ce n'est pas parce que nous n'avons pas Christ en nous, et parce que nous avons encore du mal à lui faire confiance. Christ, il est en nous, c'est une certitude. Donc, c'est une certitude quand j'ai confessé ma foi, messieurs. Il ne faut pas se dire, ah ben mince, j'ai peur, Christ est parti. Non, Christ il est toujours là, mais est-ce que j'ai confiance en lui ? Est-ce que j'ai appris à lui faire confiance ? Les disciples de Jésus ont appris à lui faire confiance. Nous aussi, il nous faut apprendre à lui faire confiance dans les moments difficiles. Et peut-être que si la fin des temps arrive, on va peut-être un peu paniquer, hein, ce sera pire qu'une tempête. Mais Christ est là et tout de suite, on va s'accrocher au Seigneur et il calmera les choses. Et le texte que j'ai lu ce matin nous dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. L'exhortation est un outil important pour construire une confiance solide avec le Seigneur. Il ne faut surtout pas négliger cet outil. Et personnellement, je vois l'exhortation de deux façons dans ma vie de foi. D'une façon individuelle et d'une façon collective. Je m'explique. Individuelle, quand on prend le temps de s'exhorter avec une personne, seul à seul. J'aime beaucoup faire des visites parce que c'est vraiment ce temps d'exhortation personnelle. On s'exhorte, voilà. Face à face. Je connais les besoins de la personne qui est en face de moi, les personnes qui sont en face de moi connaissent aussi. On peut connaître mes besoins et alors on s'exhorte réciproquement en ciblant les choses. Et par la prière, le témoignage, la louange, alors on va vraiment s'exhorter individuellement. Vraiment, l'avantage de cette exhortation, c'est que c'est ciblé. On cible l'exhortation. Ensuite, nous avons ce que j'appelle l'exhortation collective, quand on prend le temps de s'exhorter en groupe. Donc il y a le temps du culte et il y a le temps de l'étude biblique du jeudi. Et j'aime beaucoup ce temps d'étude de la parole et de prière communautaire du jeudi soir, car c'est un temps où l'exhortation est très présente. À travers les questions du partage, du partage biblique, nous partageons nos points de vue et nos témoignages différents. L'avantage de cette exhortation, c'est qu'elle n'est pas du tout centrée sur moi, et elle me permet d'avoir du recul sur mes besoins réels. Au lieu de fixer, entre guillemets, que mon nombril, ben là, je suis avec d'autres, et je découvre d'autres choses dans l'exhortation. Peut-être des choses que je n'avais pas vues. En résumé, l'exhortation individuelle m'aide à surmonter l'une de mes peurs et l'exhortation collective me permet de me décentrer afin de voir de nouveaux points de vue et peut-être de me rendre compte que certains stress ne sont pas justifiés. Ou juste de se rendre compte que je suis comme les autres. Hein? Et quoi, on peut être découragé en faisant de l'évangélisation et on se rend compte, ben, on a l'impression que ça ne sert à rien. On discute avec les gens, on se rend compte qu'ils ont les mêmes difficultés et bien ça nous encourage. Et on est exhorté. Ensuite, nous avons l'édification. L'édification. C'est un autre outil important pour construire une confiance solide avec le Seigneur. Et là aussi, je le vis de deux façons. d'une façon individuelle et d'une façon collective. Individuelle par mes lectures personnelles, c'est très important. Je choisis mes lectures bibliques en fonction de mes besoins. Ainsi, mes lectures sont personnalisées et ciblées en fonction de mes besoins. Et ça, il ne faut pas négliger. On a vraiment une immense bénédiction de vivre dans une période où il y a beaucoup de livres et il n'y a que l'embarras du choix. Il y a même des lectures en français. Elles sont de plus en plus nombreuses. Vraiment, on a cette bénédiction, profitons-en et édifions-nous d'une façon aussi individuelle. Et bien sûr, on a l'édification collective le dimanche et le jeudi. Et là, c'est collectif, c'est imposé. Par exemple, la prédication que je viens de vous faire, personne ne l'a choisie. Elle vous est imposée et vous êtes, quoi, vous n'êtes jamais obligé d'écouter, mais voilà, vous écoutez, vous subissez presque ce qu'on vous donne. Et c'est pareil pour l'étude biblique. On arrive, et même moi qui la prépare, c'est fantastique, je ne sais même pas vraiment ce qui va se passer. Parce que les gens vont apporter aussi leur point de vue, vont apporter des tas de choses, leur connaissance. Et c'est aussi pendant ce moment collectif que j'apporte les connaissances individuelles que j'ai acquises dans certains livres. Et donc je vais apporter des connaissances à des personnes qui n'avaient pas forcément eu l'idée de choisir ce terrain-là. Et donc on se laisse guider, on est édifié. L'exhortation et l'édification est importante pour notre communion avec le Seigneur, pour avoir confiance en lui. Si on néglige l'exhortation et l'édification, on va avoir quelques soucis avec notre communion avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous tend la main. Et après, il y a quand même des choses à faire. Nous ne sommes plus des bébés. À un moment donné, c'est à nous aussi de grandir. En résumé, si je résume cette prédication, nous ne devons pas chercher à tout prix la date du retour du Christ, mais nous devons fortifier notre relation avec le Seigneur de façon à être toujours plus près de lui, afin que sa présence en nous nous rassure et nous aide à préparer les autres aussi à sa venue. Parce que là aussi, ce n'est pas qu'individuel. Je suis prêt pour la venue du Christ et ce rayonnement va aussi aider mes frères et sœurs à l'être. Avoir une personne à côté de nous qui est dans le calme, la confiance devant un avenir noir, ça nous aide aussi à être dans cette confiance. C'est tous ensemble que nous sommes le corps du Christ et que nous nous préparons à sa venue. Je dirais que cette préparation n'est pas qu'individuelle, mais elle est aussi collective. C'est ensemble. Prenons soin les uns des autres. Prions. Seigneur, oui, tout autour de nous, beaucoup de choses s'agitent. Notre terre se détruit, les animaux meurent, la faune se détruit, le Covid est présent, et pourtant nous avons l'espérance. Car tu habites en nous, Seigneur Jésus, et ta présence me donne la paix, la joie. Merci Seigneur pour ce cadeau. Amen.